Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga. Me serrer la main. Me serrer la main. Me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
L'INSEE est entrée dans la maternité vers 30 ans comme une évidence, comme la suite logique de sa vie. Si elle s'est sentie malmenée pendant son accouchement, elle a en revanche repris le contrôle dès qu'elle a eu son enfant dans ses bras. C'était elle la maman, c'était elle qui décidait. Elle a donc décidé d'allaiter son petit garçon sans savoir qu'elle entrait dans une aventure lactée à très long terme. 1 mois, puis 3, puis 1 an, puis 3 ans, l'INSEE a tout fait au feeling et a eu la possibilité de poursuivre son allaitement sans encombre. Elle a également découvert toutes les injonctions liées à l'allaitement, tous les mythes et les non-dits. Sans parler du manque d'accompagnement des femmes qui les conduit à abandonner ce projet naturel. Dans cet épisode, l'INSEE nous raconte son parcours dans la maternité, comment elle a vécu son allaitement et pourquoi elle en a fait son cheval de bataille jusqu'à devenir la justicière des boobs. Bonne écoute.
Bonjour l'INSEE.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci de m'avoir invitée sur ton podcast.
Alors tu es la maman d'un petit garçon, il a quel âge ?
Donc il a 3 ans et demi, bientôt 4 ans.
Et alors comment la maternité, toi, est arrivée dans ta vie ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais depuis tout jeune ? Tu t'es toujours dit « je serai maman plus tard » ou « pas du tout » ?
Alors, je dis pas que je n'y ai pas pensé. Je pense que comme beaucoup de femmes, j'ai été conditionnée à la maternité. C'est-à-dire que... je m'en suis rendu compte après un événement qui s'est passé que finalement la maternité m'est tombée dessus parce qu'on l'avait pas programmé, tu vois, on n'était pas en mode essai bébé à fond ou machin. Ça, voilà, notre enfant est arrivé quand il est arrivé, mais du coup j'avais cette pression entre guillemets de la maternité et que la maternité était synonyme d'accomplissement. De ma vie en fait, tu vois, c'est si j'ai pas un enfant, si j'ai pas un bébé, ben j'ai pas réussi ma vie. Donc j'avais le copain, j'avais la maison, ben j'avais les chats mais j'avais pas l'enfant et j'allais avoir 30 ans et le bébé, ben voilà, je suis tombée enceinte et je me suis pas dit je le garde ou je le garde pas. Pour moi, c'était une évidence parce que c'était une continuité. Non pas que je voulais absolument un bébé, mais c'était ancré en moi qu'il fallait avoir un bébé pour réussir sa vie. Donc la maternité pour moi, elle a été la suite entre guillemets logique d'un couple qui est ensemble depuis longtemps, qui est installé, voilà. Le bébé c'était la cerise sur le gâteau pour moi à l'époque. Et la grossesse, je l'ai pas mal vécue, j'ai eu une grossesse terrible, enfin génial. J'ai pas été malade. Enfin, j'ai eu juste voilà les 3 premiers mois de grossesse non-stop, de nausées pardon non-stop. Mais j'ai pas mal vécu, tu vois. Jusqu'au dernier moment, j'étais en train de gambader le bidou devant. Mais j'ai pas voilà, je l'ai pas mal vécu la grossesse. Et puis après voilà, c'est je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu sans me prendre la tête, sans me prendre la tête, et la maternité, elle est arrivée comme ça, quoi. Tu vois, je me suis pas stressée outre mesure par rapport à ces questions, quoi.
T'avais beaucoup de figures maternelles autour de toi plus jeune ?
Non. En fait, comme je te dis, je pense que j'ai été super conditionnée dans le sens où j'ai des amis qui étaient plus âgés que moi ou des amis qui ont eu des enfants avant moi. Et puis cette pression sans cesse de bah quand est-ce que vous aurez un enfant, quand est-ce que vous arrivez un enfant, tu vois. Et comme j'arrivais, j'allais avoir 30 ans, ça fait quand même un petit moment quoi, que vous êtes ensemble avec ton copain. Et puis c'est vrai que je me disais ouais, c'est vrai que ça fait un moment. Et puis je me suis toujours dit, mais vraiment toujours dit, avant 30 ans j'aurai un enfant. Mais pas, encore une fois, pas parce que je voulais un enfant, genre je voulais materner, je veux. Non, c'est parce que il fallait que, tu vois. Et après, j'ai pas eu, je suis issue d'une grande famille, mais je suis pas proche de ma famille, tu vois. Enfin, j'ai ma petite, enfin ma famille proche dans le sens mon père, ma mère, mes sœurs. J'ai deux sœurs. Mais j'ai été, enfin juste, j'étais pas proche de mon de la grande famille qu'a mon père ou ma mère, tu vois. Donc j'ai pas eu de modèle de personne maternante ou avec beaucoup d'enfants qui m'auraient donné envie d'avoir des enfants, quoi que ce soit, pas du tout. Ça s'est fait comme ça, tu vois.
Et alors avec ton chéri, comment vous prenez la décision? Tu disais ça s'est fait comme ça aussi. Ça a été un vrai sujet ou
Alors ça a été tu vois, j'ai appris ma grossesse je suis réglée comme une horloge. Je suis vraiment réglée comme une horloge. Et j'ai eu une semaine où j'ai pas eu mes, enfin une semaine de retard, même un petit peu moins. Et j'ai dit à mon copain, ah, je sens qu'il y a un truc. Je sens que, je sais pas. Je pense que je suis enceinte ou, enfin, je sais pas. Je sens un truc, tu vois. Ça faisait quelques mois que j'avais arrêté la pilule, non pas pour avoir un enfant, mais parce que la pilule, j'en pouvais plus, des hormones et tout, j'en pouvais plus, donc j'ai arrêté. Et c'est vrai, c'est maintenant que je t'en parle, je trouve ça, enfin, c'est même la question d'avoir un bébé, genre par accident entre guillemets, ne s'est même pas posée, si tu veux, parce que aussi à cette période-là, psychologiquement, enfin c'était compliqué, j'étais dans des histoires perso qui étaient compliquées, donc je pense que mon corps s'était mis en off et je suis pas tombée enceinte, genre pendant j'ai arrêté ma pilule en mars, je suis tombée enceinte en juillet, et toute cette période-là, tu vois, j'ai pas eu de bébé, quoi. Enfin, j'étais pas enceinte. Et du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, ben la réaction de mon copain, ça a été marrant parce qu'il m'a fait, mais tu, on peut pas prendre la pilule du lendemain ou je sais pas, non, je sais pas. Et du coup, c'est vrai que la question de l'avortement, en fait, ne se posait même pas pour moi, si tu veux, à l'époque. C'était quelque chose... Non, c'était même pas quelque chose d'envisageable. Pourquoi ? Parce que, je reviens encore sur ce point de... J'allais avoir 30 ans, tu vois ? J'allais avoir 30 ans, j'étais enceinte. Ben, c'était le moment, en fait. Pour moi, c'était le moment ou jamais, en fait. Après 30 ans, si j'avais un bébé à 31 ans, 32 ans, 33 ans, tu vois, pour moi, dans mon schéma de vie, c'était pas possible, en fait. Et mon mec m'a laissé le choix. Tu vois, il m'a dit, c'est toi, je suivrai ce que tu veux. Lui, à l'époque, il voulait pas d'enfant, tu vois. Enfin, on avait beaucoup de projets, enfin, on avait des projets, on voulait voyager, on voulait faire ci, ça, ça, ça. Je dis pas qu'un enfant, ça bloque le truc, mais on va pas se mentir, ça ralentit certaines choses et des organisations qui sont différentes. Et lui, il était pas dans cette idée d'avoir un enfant tout de suite maintenant, tu vois. Et il m'a dit, on fait comme tu veux, en fait. On fait comme tu veux. Et puis, écoute, on a fait comme, on a suivi le truc, hein, tu vois, on s'est pas pris la tête, en vrai, on s'est pas pris la tête. On savait que ça allait changer nos vies, pour la vie, mais on s'est pas pris la tête plus que ça, vraiment. Donc voilà, on l'a accueilli comme voilà, il était là et on l'a accueilli comme ça, quoi.
Et alors, est-ce que tu t'es informée à partir du moment où t'as pris cette décision sur comment allait se passer ta grossesse, l'accouchement, l'allaitement, tous les sujets
Je m'y suis intéressée, entre guillemets, quand j'étais sûre d'être enceinte. C'est tout bête, mais tu vois, j'ai pas attendu 3 mois pour dire à mes proches que j'étais enceinte. Mais moi, psychologiquement, j'avais les nausées et tout ça, mais je me sentais pas encore, pas encore enceinte. Mon corps de femme enceinte est sorti très tard. Enfin, je l'ai pas vu. Pas que j'ai fait un déni de grossesse du tout, hein. Mais physiquement, j'ai changé. Les trois premiers mois, on voyait pas quasi rien et j'avais pas, parce que j'avais une référence, tu vois, des femmes enceintes que je pouvais voir sur internet et tout, qui avaient déjà un gros bidou ou des trucs comme ça, tu vois. Et après, psychologiquement, j'ai dû intégrer le fait que j'étais enceinte. Et puis ensuite, je m'y suis intéressée petit à petit. Faut savoir que j'ai une page qui s'appelle Bien vivre sa grossesse. Et du coup dessus je donnais des informations et je m'en donnais en même temps.
Ah ouais.
Je recherchais des trucs et j'étais beaucoup plus investie du coup puisque j'étais moi-même enceinte à ce moment-là. Et j'ai appris tout au long et au cours de mes recherches, en fait, mes publications, elles évoluaient aussi parce qu'au début de, avant d'être enceinte, je mettais des trucs hyper clichés et des trucs quand t'es pas enceinte, tu dis des trucs. Tu suis ce qu'on t'a dit, ce que t'as entendu, tu vois. Puis quand t'es vraiment enceinte, tu vis vraiment le truc et tu sais de quoi tu parles. Donc ça a évolué comme ça.
T'as fait la page avant d'être enceinte?
Ouais. Parce que j'avais des copines enceintes et je me suis dit ça peut être marrant et tout, cette thématique et tout. Et elle a vachement, elle a vraiment vite pris, bien pris. Et ça me faisait marrer. Et puis ça, je l'ai toujours, tu vois. J'aime beaucoup mettre des posts humoristiques dessus. Et je la tiens toujours. Et y aura toujours des femmes enceintes. Donc tu vois, il y a toujours ça brasse pas mal. Et donc je me suis renseignée, mais contrairement à l'allaitement, je me suis quand même pas non plus renseignée à mort, dans le sens où il y avait des choses très anxiogènes. Et je me rappelle même quand j'étais enceinte de 5 mois et je regardais les maternelles et elles parlaient d'épisiotomie. Oh putain, j'ai pleuré. En fait, c'était des épisiotomies qui s'étaient mal passées. Et moi, tu sais, tous ces termes de grossesse, tout ça, moi, je connaissais pas à l'époque. Et qu'elle te parle, ouais, ils m'ont coupé et tout, ça fait comme ça, la cicatrice, machin. J'ai pleuré. Alors, je sais pas si les hormones aussi, ça jouait en même temps. Et j'avais mon copain derrière, mais je veux pas accoucher. Non, c'est mort, il reste à l'intérieur, je veux pas accoucher. Et je crois que depuis ce jour, j'ai plus regardé les maternelles, même si je suis OK pour les informations, mais comme pour tout, si c'est quelque chose qui heurte ta sensibilité, tu passes. Et puis voilà, il y a d'autres moyens de s'informer ou quoi, mais je te dis, moi voilà, j'ai vécu ma grossesse un petit peu dans ma bulle, tu vois, en me disant, tant que j'ai pas de soucis, et heureusement, j'ai pas eu de soucis ou quoi que ce soit. Ça aurait été peut-être différent si j'avais une grossesse difficile, je ne sais pas, mais j'ai une grossesse sans difficulté, sans rien, donc je me suis pas informée outre mesure. Je l'ai vécu comme je l'ai vécu, et voilà. Les seuls trucs, tu vois, les seuls trucs sur lesquels je m'étais informée, c'était un petit peu tout ce qui était genre préparation de grossesse, qu'est-ce qui était mieux, est-ce que c'était bien de faire la sophrologie, est-ce que c'était bien de faire de l'aptonomie, des choses comme ça, tu vois.
Pour la préparation à l'accouchement.
Pour la préparation de l'accouchement, voilà. La sage-femme, comment la choisir et tout. Enfin, voilà, c'est juste ces petites questions sur lesquelles je me suis penchée. Ensuite, je me suis intéressée aussi à l'accouchement physiologique, que j'ai pas eu du tout. Mais je me suis intéressée à ça. Et ensuite, la question de l'allaitement est venue très tard.
T'avais en tête de faire un accouchement physiologique?
Ouais, j'avais en tête de faire un accouchement physiologique avec... je suis à Nîmes. Et ils ont une... au CHU de Nîmes, ils ont une salle physio. Une salle physio avec, tu vois, genre les trucs pour se suspendre, la boule, le bain, tout ça, machin. Et j'avais dans l'idée que j'allais accoucher là-bas, machin. J'ai accouché 3 semaines plus tôt, enfin que mon terme, en restant chez moi, en ne sachant pas que j'allais accoucher. Pour moi, je faisais un faux travail. Donc, je suis restée... j'ai eu des contractions de 11h du matin, la veille, jusqu'à 7h, en pensant que c'était un faux travail. En fait, parce que j'étais allée chez le gynéco, je sais pas, 2 jours avant. Ah non, votre bébé, il est bien haut, votre col, il est fermé et tout. Donc pour moi, j'allais pas accoucher, j'allais accoucher à terme, en tout cas pas maintenant, quoi.
Ouais.
Et puis, toute la journée, je sentais que ça tirait un peu. Mais je fais, bah non, c'est du faux travail. Bah non, c'est du faux travail. Arrivé à minuit, bah non, c'est du faux travail. Je prends quand même les mesures. Je regarde le temps, tu vois, genre entre les contractions. Bah non, c'est du faux travail. Et mon mec, alors on ne conduit pas tous les deux, donc on a appelé ma belle-mère pour aller à l'hôpital ensemble, tu vois. Et mon mec me dit, non mais moi je pense que c'est bon. Je dis, mais non, c'est du faux travail. Mais franchement, chez moi, j'étais bien. Vraiment, j'étais bien. Enfin, je veux dire, je m'attendais à une douleur, mais genre, après, chaque femme est différente, hein, bien sûr. Mais tu sais, quand tu vois dans les films que les meufs, elles sont là, et tout en train de crier, moi, je m'attendais à souffrir le martyr. Et franchement, c'était des douleurs de règles, mais genre, un petit peu plus, voilà, tu vois, un petit peu plus. Et en fait, j'ai vraiment souffert. Et là, c'était comme dans un film, quand j'ai dû monter dans la voiture, enfin descendre les escaliers, parce qu'en fait, tu vois, j'étais plein pied chez moi, donc ça allait encore les mouvements, tu vois, et que j'ai senti tous les petits cailloux quand ma belle-mère roulait dans la voiture. Et je pense que c'est à ce moment-là que, tu vois, les contractions, elles se sont intensifiées et que là, j'ai vraiment souffert ma mère. Et, et quand on est arrivé à l'hôpital, elles m'ont dit « Vous êtes ouverte à 6 ». Ah, ok. Genre, en une demi-heure, je suis passée de 6 à 9. Et en fait, le truc, c'est que en amont, alors je te disais aussi, oui, je m'étais renseignée aussi par rapport à la péridurale et tout, et je ne voulais pas la péridurale. Donc, je m'étais préparée à ne pas avoir la péridurale. Mais entre ce que tu veux et entre ce que tu fais, parfois, il y a un gap. Et j'ai souffert ma mère pendant tout le trajet. Genre, j'étais hors de mon corps. Genre... Donc, je leur ai dit, je veux la péridurale. mais en plus, tu vois, et puis j'avais ce côté, enfin, j'avais genre, je me suis dit, je vais pas me la jouer genre femme forte, genre non, j'ai dit non et tout, je vais le faire. J'ai dit non, là, franchement, franchement. Et en plus, tu sais, je suis même pas du genre à insulter les gens ou quoi. Et franchement, je crois que j'allais insulter les personnes qui étaient autour de moi si elles ne me mettaient pas cette péridurale, tu vois. Et limite, enfin même pas limite, je me suis excusée, en fait, d'avoir fait la péridurale. Parce que, genre, c'était pas dans le plan que je m'étais fait et que peut-être que, enfin, dans mon idée, c'était être plus faible, entre guillemets, parce que, tu vois, il y a des femmes qui l'ont fait et quand tu repenses à nos mères, à nos grands-mères et tout ça, elles l'ont fait sans péridurale. Franchement... faut arrêter de se mettre la pression. C'est... Et puis après, voilà, c'était le jour et la nuit. Hein, la péridurale, le jour et la night. Mais dans l'hôpital où j'étais, ben, le fait que j'ai pris la péridurale, je n'ai pas pu faire comme je voulais par rapport à la position. Tu vois, genre, en fait, je me rappelle, tu vois, j'avais une position latérale, tu sais, sur le côté. Tu vois, sur le côté. Et là, j'étais bien, tu vois. Moi, j'étais vraiment bien. Mais c'était moi qui étais bien. Mais c'était pas bien pour le médecin en face, tiens. Donc le médecin, non, mais vous mettez sur le dos les jambes et tout, comme ça. Et pendant tout le truc, c'était comme ça, en fait. C'était pendant tout le truc comme ça, c'était les touchés vaginaux, genre toutes les heures, j'en sais rien. Enfin, c'était très embrouillé un petit peu pour moi, tu vois. Et jusqu'à l'accouchement, tu vois, j'ai un souvenir de, tu vois, c'est un moment animal et je lâche tout. Une infirmière qui me dit, non mais c'est bon là, vous arrêtez de crier un petit peu, tu vois. Je fais, je suis pas en train de démouler un cac en fait, je suis en train d'accoucher. Je veux dire, c'est tout mon corps qui est en train d'agir, qui est en train de, donc, et tu vois ça aujourd'hui, presque 4 ans après. Si je devais avoir un autre enfant, je pense que ça aussi, ça va conditionner au fait que je veuille pas d'enfant non plus, tu vois. Enfin, de revivre un accouchement, enfin, c'est non, tu vois, je ne veux pas. Mais c'est mon histoire, tu vois. Mais moi, je veux pas. Et revivre un accouchement où on te met des interdictions de t'exprimer, c'est non, tu vois. On a vécu ça. J'ai pas pu, enfin, me mettre dans la position que je voulais. J'avais fait un truc de naissance, je sais plus comment on appelle ça.
Un projet de naissance.
Un projet de naissance où je disais que je ne voulais pas qu'on coupe le cordon avant un certain moment, ça n'a pas été respecté. Mon fils, il est né donc 3 semaines avant, il faisait un petit poids crevette, hein. enfin, tu sais, genre 2,8 kg, et jusqu'au dernier moment, oh, bah, ça va, il descend bien, oh, ça va, il descend bien, oh, c'est bien, vous faites bien, vous faites bien. Et puis, au final, il a fini avec des spatules. Tu vois, on l'a, et si mon copain n'était pas là, j'aurais pu avoir une césarienne. Tu vois, enfin, il y a des trucs, mon copain, pareil, il l'a très mal vécu. Enfin, tu vois, 4 ans après, il y a un an, j'ai vraiment, réalisé que j'avais vécu des violences obstétricales. Tu vois, c'est parce que j'écoutais un reportage et tout, et je me suis mise à fondre en larmes parce que j'ai compris que ce que j'avais vécu, il y avait des choses qui étaient pas normales. Tu vois. Donc du coup, ça va beaucoup mieux parce que je pense que j'ai sorti ça, mais j'étais sous péridurale, donc du coup c'était très très flou. Et mon copain me racontait ce que lui avait vu, tu vois. Mon fils aîné, mon copain, il pleurait quoi. Il était content, mais il pleurait parce qu'il voyait, il avait vu tout ce qui s'était passé et qu'il y avait des choses qui étaient pas normales quoi. Et du coup, tu vois, là, j'ai réalisé que non, ce n'était pas normal. Et je me dis que c'est peut-être à ce niveau-là que j'aurais dû me renseigner et que il y a des choses que j'aurais peut-être, que j'ai accepté entre gros guillemets le jour de mon accouchement, mais qui n'étaient pas acceptables. Et si je m'étais renseignée, si j'avais lu des choses et vu des témoignages, ben peut-être que j'aurais su que c'était pas bon et que ce jour-là j'aurais pu dire ben non. Mais encore une fois, tu vois, c'est mon premier enfant. J'étais plus jeune, enfin même si j'avais 30 ans, mais j'étais plus jeune, par rapport à ça. J'ai fait confiance au corps médical en me disant bah c'est eux qui savent. J'avais pas de recul ou quoi que ce soit, donc du coup j'ai pas du tout eu l'accouchement que je voulais avoir. J'ai pas du tout eu, j'ai pas senti mon enfant. J'ai eu aucune sensation. Il est arrivé sur moi. On ne voulait pas savoir le sexe du bébé. Il est arrivé sur moi, j'étais tellement en truc, je fais « C'est sûr que c'est un garçon ?» Mais vraiment, genre, je crois que j'ai même pas vu son zizi au départ, tu vois, un bébé, tu vois, on me l'a mis, et voilà. Et j'étais tellement dans le gaz que j'ai même pas calculé, quoi. Donc du coup, ouais, l'accouchement, c'était assez bizarre, en fait. C'était assez bizarre, et je disais, ouais, que... Enfin, au tout début, je voulais faire un accouchement à domicile, mais encore une fois, tu vois, premier enfant, appréhension, peur, et puis les on-dit, les histoires, les machins, enfin, tu vois. Donc, du coup, j'ai été très, 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 très conditionnée et j'étais très, très, c'était plus mes peurs qui menaient que mon instinct. C'est comme ça que je pourrais résumer. Ouais, c'est ça. C'est plutôt comme ça que je pourrais résumer, en tout cas, ma fin de grossesse. C'est mes peurs qui ont conditionné mon accouchement et comment je mènerais ma grossesse en fait. Et quand je vois comment j'ai maîtrisé finalement mon accouchement, enfin mes contractions et tout, je me suis dit bah franchement j'aurais accouché chez moi, mais j'aurais été tellement mieux, tu vois. J'aurais été dans mon lit, j'aurais été tranquille, sans pression, sans ce balai des infirmières et tout ça. Je te parle, enfin. Tu dois le savoir aussi, mais le balai des infirmières, des sages-femmes postpartum, c'est c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc moi j'ai pas le souvenir d'accouchement, le souvenir d'accouchement c'est pas ça quoi, pas ça du tout.
Et alors la rencontre avec ton fils,
c'était embué. Je pense qu'ils ont mis le shoot à max dans la péridurale. Ouais, c'était un sentiment bizarre dans le sens je l'ai fait, tu vois, c'est vrai, enfin tu vois, waouh. Je m'attends, enfin genre quelques mois avant tu dis non tu restes à l'intérieur, je veux pas que tu sortes, je veux pas machin, et le truc c'est quoi, il était posé sur moi et c'était plus le réaliser que il était là en fait, tu vois, réaliser que waouh, ça a grossi comme ça en 8 mois. Waouh. C'était vraiment plus ça, quoi. Et puis ensuite, on nous a laissés avec le papa dans la salle d'accouchement. Et là, j'ai pu apprendre à le connaître, à l'apprivoiser. Et Et ouais, c'est marrant, il y a un truc. Alors, je vais passer pour une mère pas cool. Mais en fait, t'avais toutes les infirmières qui passaient et qui disaient « Oh, il est trop beau ! Oh, il est trop beau !» Et moi, je regardais, je fais « Oh, je sais pas. Je sais pas, non, enfin, je fais pas, non, il est pas beau, mais je n'arrivais pas à trouver mon, enfin, voilà. C'est le jour d'après, tu vois. Quand il avait pris des couleurs, quand il était, tu vois, et que j'ai eu le temps de l'observer toute la nuit, j'ai pas dormi, tu vois. J'ai pas dormi de la nuit, je l'ai regardé toute la nuit, alors que j'étais épuisée. Et je l'ai regardé toute la nuit. Et je, tu vois, ce petit bout-là, c'est une toute petite crevette qui, enfin, je dis pas qu'il tenait dans ma main, mais dans mes deux mains, tu vois. Et ouais, c'est là que j'ai commencé, enfin, que j'ai pris conscience que ouais, j'étais sa maman, quoi. Et qu'il était là, voilà.
Et alors, la première tétée, est-ce que toi, t'avais envisagé de l'allaiter? Est-ce que t'avais un programme là-dessus?
L'allaitement, c'était, on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben, on passera au biberon. Et le truc, c'est que, pareil, mon copain, il a été, alors, au début, c'était assez hardcore dans le sens où il disait, mais si t'es une maman et que t'allaites pas, pourquoi? Enfin, ça sert à quoi d'être maman? C'était hyper binaire à l'époque. Ça a changé depuis, je rassure. Et moi, j'étais très braquée à ce niveau-là parce que je voyais ma meilleure amie qui n'avait pas allaité. J'avais une autre copine qui n'avait pas allaité. Et je me disais, ben non, mais les femmes, elles ont le choix de d'allaiter ou pas. Donc, t'as pas à dire que une femme doit allaiter ou pas allaiter. Enfin, c'est elle qui décide, quoi. C'est son corps et tout. Et du coup, bon, on en discute et tout, je sais pas, une semaine ou deux avant d'accoucher, avant mon accouchement, je discute avec une copine qui a, elle, allaité aussi son enfant, qui était enceinte de son deuxième, et qui me parlait de ce qu'était l'allaitement, en fait. J'avais pas eu d'échange vraiment bienveillant jusqu'à présent sur ça. Et qui me disait que elle avait allaité et qu'elle continuait d'allaiter son petit qui avait 19 mois. À l'époque, et de dire que voilà, il faut le faire comme on le sent, quoi. Mais que c'est une expérience super, machin. Enfin, tu sais, qui me donnait des avantages et tout, mais sans me mettre de pression et sans me dire il faut, sinon t'es pas une bonne mère, là, là, là. Et du coup, ça commençait à faire un peu de chemin dans ma tête. Et puis, ensuite, avec mon copain, on s'est renseigné. Sur les bienfaits, sur ce que ça pouvait apporter à l'enfant, comparativement avec le lait en poudre, par exemple, qu'est-ce que ça pouvait apporter, machin et tout. Ça a fait son petit chemin et j'ai fait, bon, je vais tester et si ça ne fonctionne pas, eh ben, je passe au biberon. Et j'avais précommandé des boîtes de hip biologiques sur Amazon. Mais comme des fois, je suis dans la procrastination, donc j'ai laissé le truc dans mon panier. Mais dans ma liste de naissance, j'avais mis des biberons, donc j'avais reçu des biberons, mais j'avais pas le lait en poudre. Et du coup, d'ailleurs, les biberons que j'ai reçus, j'en ai utilisé un dans une de mes vidéos, donc je vois maintenant ils me servent à ça.
les démonstrations.
Et du coup, ouais, le pot de lait en poudre, je l'ai jamais commandé parce que je suis allée accoucher plus tôt. Et pareil, c'est sans pression. Et du coup. Allaitement, il a pris le singe tout de suite. J'ai pas du tout eu de difficultés, pas de. Pareil, je me suis pas non plus renseignée de ouf. Même si aujourd'hui, je conseillerais à une future maman de se renseigner en amont, mais je m'étais pas renseignée de ouf et je l'ai fait au feeling. Tu vois. Et par chance, mon fils n'a pas de frein, n'avait pas de difficultés ou quoi que ce soit. Si, je mens, pardon. Il avait juste, en fait, le fait d'être né avec des spatules, il avait une tension au niveau de la mâchoire. Et du coup, pendant un mois, en fait, sur le sein gauche, il pinçait plus, en fait. Donc j'avais un petit peu plus. Alors c'était pas une souffrance genre insurmontable, hein, mais je sentais quand même que c'était pas une succion qui était très très aussi fluide que l'autre, quoi. Et quand j'ai vu la pédiatre, c'est là que voilà, elle m'a dit bah ouais, il y a une petite tension, allez voir un ostéopathe qui va peut-être réussir à voilà arranger ça. On a été voir l'ostéo, nickel. Il y avait plus rien. Et donc bon, jusqu'à présent. Voilà. Et l'allaitement, voilà, je me suis pas à la mater, ça s'est super bien passé. J'ai fait du pot à pot non-stop. Et je pense qu'on est passé pour le couple relou de la maternité. Parce que pour le coup, encore une fois, mon mec, il a été en mode barrière, quoi. Tu vois, on n'a pas respecté notre accouchement, tu vois. Mais on était entre guillemets un petit peu à la merci du corps médical. Parce que voilà, je suis dans une position non physiologique, les jambes écartées, la foufoune face au monde, et un petit bout qui va pour sortir, tu vois. Et je me dis voilà, faut que je leur fasse confiance en fait, parce que c'est la vie de mon bébé qui est en jeu. En revanche, quand je suis dans ma chambre et que j'ai mon enfant, c'est moi qui décide, tu vois.
T'as eu tout de suite ce switch.
Ah bah ouais, je me suis dit, on m'a volé mon accouchement, on va pas me voler mon postpartum quand même, tu vois. Et mon mec a participé aussi à ce que je prenne cet empowerment de mon de mon postpartum, tu vois. Je pense qu'il n'aurait pas été là, je pense que j'aurais été, encore une fois, avec les hormones, avec la fatigue et tout, je pense que je me serais un petit peu plus laissé faire, entre guillemets. Et on n'a pas voulu lui donner le bain à l'hôpital. Il est resté 5 jours, et pendant 5 jours, il n'a pas pris de bain. On voulait garder son vernix, tu vois. Il a pas pris de bain, il a pas été shampooiné, il est resté en peau à peau sur moi. Il y avait le petit lit à côté et tu sais, le côté en plus, les réflexions un petit peu insidieuses, genre « Ah ben, vous faites comme vous voulez, hein, mais bon, vous plaignez pas si. » « Bah non, je me plains pas, je te dis que je le fais, je le fais. » Donc il a dormi, cododo, avec moi tout le temps. La seule fois où il a été séparé de moi, c'est quand, et en fait, il a une petite jaunisse. Donc, il est passé deux fois au rayon. Et on a été séparés, une demi-journée, chaque fois. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ah ouais, non, j'ai pleuré, genre, on m'arrachait un bout de moi, quoi, tu vois, et, La première fois, c'était la nuit, on m'a rendu à minuit, tu vois, il a dormi avec moi, mais c'était une séparation, mais horrible, horrible. Et comme j'étais en plus, tu sais, je pensais au truc des vols des bébés, tu sais.
Oui, je crois qu'on est en doute.
Mais j'étais en stress, je veux pas qu'on vole mon bébé, je veux qu'on me le rende et tout, donc j'allais le voir et tout. Et ouais, non, j'étais pas bien. Mais voilà, sur ça, on a fait front en fait face au corps médical qui voulait absolument le laver, qui voulait absolument, tu vois, qu'il dorme à côté, et il est resté en peau à peau tout le temps. Il a pris, je saurais plus te dire le poids qu'il a pris, mais il a grave pris en quatre jours, tu vois, il est né poids crevette, 2,8 kg. Il est ressorti, je sais pas, il faisait 3,4 kg, je crois. Et là, les tétés, c'était à volonté. Non, je te dis une connerie, pareil. Encore une fois, je n'étais pas informée. Donc, les tétés, non, c'était pas à volonté, mais je le mettais vraiment contre moi. Il était sur une petite polaire contre moi. Donc, il avait ma chaleur et il ne bouffait pas toutes ses calories, quoi. Donc,
tu arrivais à comprendre quand il avait besoin de tétés ? Tu as tout de suite su
Non. Pour moi, ce n'était pas automatique. Tu vois ? C'était pas automatique de me dire il pleure tété. Pour moi c'était il pleure, il a besoin de contact, ou il pleure, il est peut-être fatigué, ou il pleure, c'est peut-être sa couche, tu vois. Mais je me disais pas il pleure, je peux peut-être le réconforter ou le soulager en lui donnant le sein. C'était pas du tout un automatisme comme ça pourrait l'être aujourd'hui, tu vois. Donc, on m'avait donné le tips de lui mettre un petit doigt dans la bouche. Tu vois, au lieu de lui donner la tétée. Et puis, c'était des trucs. Encore une fois, si j'ai un conseil à donner à une future maman, enfin voilà, oui, il y a la couche, il a peut-être besoin d'être contre toi, mais le sein, c'est quelque chose qui sera pas forcément que nourricier. Donc, donne le sein quoi qu'il arrive, si tu vois que ça fonctionne pas, bon bah tu passes à autre chose, pardon. Mais le sein va résoudre 99% des problèmes. Et ça, c'est le truc, tu vois, je n'étais pas au courant.
Est-ce que tu étais au courant de la nuit, je sais plus comment on appelle ça,
moi,
Ouais, moi je l'avais appelé la nuit de l'enfer.
On nous l'avait vendu comme la nuit de la Java. Ouais, ça par contre on me l'avait dit. Enfin, en fait j'avais visité la maternité et l'équipe en place, en tout cas les femmes qui nous faisaient le cours, je sais pas si on peut dire ça comme ça, avaient parlé de la nuit de la Java parce qu'il y avait une personne qui avait posé la question. Et si quelqu'un n'avait pas posé la question, je pense qu'elle n'en aurait pas parlé, tu vois. Et alors, la nuit de la Java, c'est la nuit de la première montée de lait. Et donc là, le bébé, il va téter toutes les 5 minutes. ouais, il va téter très 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 souvent, très 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 souvent. Et puis c'est pour que voilà ta lactation se mette en place. Et puis ensuite voilà ça se régule au fil des jours. Mais c'est particulièrement cette nuit là où là, t'as une réelle montée de lait, tes seins gonflent, voilà, et ton bébé, il est au sein sans arrêt.
C'est quelle nuit d'ailleurs? C'est la deuxième nuit?
Trois. Normalement, c'est la troisième nuit. Après, ça peut être un petit peu plus tard, hein, mais en moyenne, c'est la troisième nuit.
Donc toi, t'as plutôt trouvé ton rythme tout en douceur dans l'allaitement?
Ouais. Enfin, vraiment, je pense que vraiment avec le recul, hein, je pense que c'est parce que je m'étais pas vraiment renseignée. Tu vois, aujourd'hui, je me renseigne sur des choses qui me mettent un petit peu plus la pression parce que je sais que. Alors que quand t'es pas au courant, tu le fais au feeling et tu te dis bon ben ça vient comme ça vient. Et puis avec le recul, tu te dis bon j'aurais pu faire ça de cette façon-là, ce serait passé différemment. Mais au moment T, ben tu vis le truc et puis ben tu te prends pas la tête en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis pas prise la tête. Tu vois le fait de le laisser en peau à peau avec moi, je n'avais aucune idée que ça pouvait aider à ma lactation. Moi je l'ai gardé en peau à peau avec moi parce que. Ben juste parce que je voulais pas qu'il aille dans son lit et qu'il soit tout seul dans son lit et qu'il est tout froid tout seul ou enfin qu'il soit loin de moi, enfin c'était plus un côté instinct maternel plus que ben ça va aider à ma lactation quoi, tu vois. C'était plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, je sais que le fait d'avoir ton enfant en peau à peau avec toi va aider donc à ce qu'il prenne plus vite du poids parce qu'il va pas avoir froid donc dépenser des calories, ça va aider à mettre en place ta lactation, parce que ton enfant, il est proche de ton sein, donc dès qu'il a faim, clac, ben, tu lui donnes le sein, et puis ça tisse, ça crée le lien, en fait, d'être en peau à peau. Ça crée ce lien. Je dis pas que les mères qui laissent leur enfant sur le lit d'à côté n'ont pas ce lien. Hein. Je dis juste que quand tu fais du peau à peau, ça booste l'ocytocine, tu sais. Donc voilà, mais toutes ces questions-là, je te le dis maintenant parce que je suis au courant. Mais il y a 4 ans, ben je l'ai fait au feeling quoi.
Et alors le retour à la maison, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Ouais, parce que pareil, tu vois, j'étais très très proche de mon bébé quoi. J'étais très très proche de mon bébé et j'ai été très très épaulée aussi. J'ai été très très épaulée, donc je pense que ça s'est fait pareil encore une fois en suivant ses humeurs, tu vois, en suivant les humeurs. Alors après, ouais, j'étais claquée de folie. Mais le cododo a aidé à ce que je ne tombe pas non plus en dépression, quoi. Et puis pareil, tu vois, juste pour revenir sur le peau à peau, c'est aussi ça, ça aide aussi à réduire les risques de dépression du postpartum. Et on est resté en peau à peau. Je vais pas te mentir, on est resté, je pense, un mois et demi en peau à peau. Je dormais, j'étais tout le temps collée avec mon fils. Le portage, je l'ai porté, mais un peu plus tard, parce que j'avais pas confiance en moi à ce niveau-là, et je n'étais pas renseignée à ce niveau-là non plus. Mais le pot à pot, je l'ai vraiment fait très, 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 très souvent. très très souvent pendant un mois et demi. Il était quasiment tout le temps en peau à peau. La nuit, il était en peau à peau. On faisait du cododo. Non, ça c'est ouais, le retour s'est bien passé. Un autre truc. Alors je désolée, c'est un petit peu décousu, mais pareil, on s'était renseigné sur le fait d'avoir de la visite à l'hôpital. Et sur ça, on a fait front aussi. Personne n'est venu parce qu'on voulait personne à la maternité. Et je sais pas si j'ai somatisé ou quoi. Pendant ma grossesse, ma mère m'a mis ses angoisses. Elle m'a gonflée pendant ma grossesse à ce niveau-là. Et je pense que tu vois, je sais pas. Peut-être qu'on veut voir des signes ou on veut voir des signes. Hein, mais j'ai accouché 3 semaines avant. Et comme ma mère est en région parisienne, elle a pas eu le temps de venir me voir.
Nickel.
À l'hôpital. Donc du coup, j'ai accouché, elle n'était pas là. J'ai juste eu ma belle-mère, mais ma belle-mère, c'est pareil, elle était au courant qu'on voulait voir personne, donc elle est venue parce que on n'avait pas de moyens de transport et elle nous a accompagnés et elle a respecté le fait qu'on voulait rester que tous les trois. Et ça, je pense aussi, ça a vachement aidé à ce que ma lactation se mette bien en place, parce qu'il n'y avait pas les visites toutes les heures, toutes les je sais pas combien de temps dans ma chambre, tu vois. Et c'est pareil pour la rentrée, quand je suis rentrée chez moi, on a attendu un mois avant que toute la famille voie notre enfant. Donc il y a juste eu ma famille proche, genre ma mère, mon père, mes sœurs et la mère de mon copain, qui ont vu le bébé dans une semaine ou deux après que j'ai accouché, mais c'était pas, il y avait pas un balai de personnes chez moi, quoi, tu vois. Et ça, je pense que ça a vraiment aidé aussi à ce que qu'on s'apprivoise avec mon fils, tu vois, qu'on apprenne à se connaître, qu'on retrouve un équilibre, en tout cas un premier équilibre, parce qu'il y a différentes étapes d'équilibre. Un premier équilibre, une fois qu'on était rentré à la maison. Et je pense que ça a contribué aussi à ce que je me sente bien, quoi. En tout cas, que je sois pas en PLS au retour à la maison, quoi.
Et alors là, vis-à-vis de ton allaitement, est-ce que déjà tu te disais, allez, c'est parti, t'avais tes biberons, du coup, qui étaient posés chez toi. Est-ce que tu les as regardés un petit peu, ou est-ce que tu t'es dit, allez, c'est parti, j'allaite au max? Qu'est-ce que tu t'es dit, en fait?
Non, ni l'un ni l'autre. En fait, l'allaitement, moi, je vais résumer ma maternité, je le fais au feeling, en fait.
Pareil.
Mais je me suis pas posé cette question du biberon quand j'ai commencé, en tout cas. Je me suis absolument pas posé cette question là, et je me suis pas dit non plus yalla, on y va pour 6 ans. Je en fait, au départ, je me suis dit déjà pour l'allaitement et le cododo, pour moi ça va de pair. Et je disais bon, allez, vas-y, on va faire ça 3 mois. 3 mois, c'est déjà bien. Bon, je vais le faire 6 mois. 6 mois, c'est déjà bien. Je vais le faire 9 mois. 9 mois, bon, ça va. Et puis après, c'est parti. Enfin, ça y est, tout seul, en fait. Tu vois, c'est. Je me suis plus posé la question de est-ce que je vais arrêter. Au bout d'un moment, je me suis plus posé cette question-là. Et puis au début, en fait, au début, ça se passait très bien. Juste les 3 premières semaines. En fait, la première semaine déjà, quand la sage-femme est revenue, tu vois, pour les suites de couches, elle mettait la pression. Enfin, elle mettait la pression. Elle me disait, c'est une phrase que j'oublierai jamais, genre mon fils il avait 7 jours, et elle m'a dit il faut que vous espaciez les tétés de 3-4 heures, bon, parce que bon, il faut quand même lui apprendre à se réguler, hein. C'est pas lui qui va décider de quand est-ce qu'il va prendre le sein. Et tu vois, sur le coup, encore une fois, j'étais pas renseignée. Cette phrase m'avait un peu choquée. Parce que elle parle quand même d'un enfant, d'un nourrisson de 7 jours, comme si il allait régenter ta vie. et à côté de ça, je me dis peut-être qu'elle a raison, parce que elle sait, parce que c'est une sage-femme, donc elle a l'habitude de ces choses-là. Et du coup, a commencé là, je suis restée deux, trois semaines à suivre ce protocole des 3-4 heures. Mon fils qui hurlait à la mort. Genre, j'essayais, je le berçais et tout. Et mon copain qui me fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et tout ça. Et je fais, mais il faut attendre. Elle a dit, attends, regarde, ça fait que 2 heures. Maintenant, c'est pas, je te jure, j'étais pas bien. Et je fais, non, mais attends, ça, regarde, ça fait 2 heures, 2 heures et demie. Attends, je lui donne un tout petit peu de sein, peut-être que, attends, tu vois. Et j'étais vraiment en stress de dingue. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ouais, c'est bon, laisse tomber, ça m'a saoulé. Mon fils, il veut le sein, il veut téter, je peux lui donner, je lui donne, et merde, tu vois, c'était ça. Et après un mois, ben, c'était tété à la demande, quoi. C'était tété à la demande. À côté, ben, tu vois, j'avais des petites réflexions, mais pas méchantes, t'es sûr qu'il a assez mangé? Mais il vient pas de manger, là? Pourquoi tu lui donnes le sein, là? mais t'es sûr que, tu vois? Je dis oui, c'est bon. Ma mère qui venait au-dessus de mon épaule, bah t'es sûre que. Puis après, bah voilà, j'ai fait comme je l'ai senti. En tout cas, le premier mois et la seule fois où j'ai songé à donner le biberon, en tout cas à me dire que ça me soulagerait. C'était quand il avait 5 mois et qu'il était dans un pic de croissance et que j'étais, mais au bout de ma life, j'étais fatiguée. Les nuits étaient en dents de scie. Enfin, c'était un truc de fou. Donc du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, franchement, s'il avait le biberon, ce serait quand même plus simple. Et puis après, ben petit rewind dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais... quand même, tu vois, voilà, ça fait 5 mois, je lui donne le sein, je lui apporte ci, je lui apporte ça, ça lui fait du bien, c'est bon pour lui, et tu vois, il y a tous les avantages, tous les bénéfices, je dis pas avantages, tous les bénéfices de l'allaitement qui me répètent à la tronche, en fait. Et je me dis, je le précise à chaque fois, hein, mais c'est moi qui pense, voilà. Je peux pas lui faire subir ça. Je peux pas lui donner du lait en poudre parce que j'ai lu tellement de choses au sujet du lait en poudre. À l'époque, en plus, quand il est né, il y avait cette polémique et il y avait eu sur les laits en poudre avec des trucs dedans. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de lait en poudre qu'on retirait du marché, tout ça, machin. Je fais non, je peux pas. Tu vois, je peux pas. Et mon copain qui était toujours à me soutenir, tu vois, à me dire, mais regarde, t'es arrivé jusque là, t'as fait un gros chemin et tout, franchement tu peux être fier de toi et tout, enfin voilà, dans quelques mois, dans quelques années, tu en riras. Dans quelques années, voilà. Et donc du coup je fais ouais, c'est bon, c'est vrai, t'as raison. Et voilà, ma la période où j'ai voulu passer au biberon est passée. Mais après voilà, je vais pas te mentir en te disant ça a toujours été voilà, ça fait 3 ans et demi, ça a toujours été ouh super l'allaitement machin, je kiffe. Non, il y a des fois où je me dis attends, ça me saoule, tu vois, quand je vais avoir mes règles par exemple, je n'en peux plus, tu vois, je me dis c'est bon, tu vois, il peut pas me, enfin tu vois, s'il me touche les seins, qu'il me fait des trucs, ça me saoule, tu vois. Et puis après, bah quelques jours après, ça va mieux. Et encore une fois, je me dis je suis arrivée tellement loin finalement dans cet allaitement que il reste plus beaucoup finalement, il reste plus beaucoup de temps, tu vois, un enfant se sevre entre 2 ans et demi et 7 ans, il a 4 ans, ça va pas durer non plus encore 10 ans, quoi. Donc je me dis profite de cet instant, profite de ces moments parce qu'ils ne reviendront jamais.
T'appréhendes un peu la fin?
Non, je l'appréhendais. Il y a une fois où il s'est endormi sans le sein. Et tu vois, j'ai fait une vidéo où je danse en disant « Ouais, il s'est endormi à 21h sans le sein. » La vérité, c'est que beaucoup de mamans pensent ça, tu vois. Beaucoup de mamans se sont reconnues. Mais la vérité, c'est que... je pourrais en faire une en plus comme ça. J'étais pas bien, en fait. Je me dis, attends, si c'est pas endormi avec mon sang, ça veut dire qu'il veut plus téter et tout. Et quand il s'est réveillé, genre, je sais pas, une heure après, et qu'il a tété, je me dis, oh, c'est bon. C'est bon, je suis rassurée. Mais non, j'appréhende moins aujourd'hui de me dire que bah demain, si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Mais parce que ce sera lui qui aura pris cette décision. C'est lui qui sera arrivé au terme de cet allaitement et pas moi qui lui aurais imposé de s'arrêter. Tu vois. Donc non, j'appréhende pas. Je me dis bah si c'est ça arrive, ça bah, voilà, ça arrivera.
Et t'as repris le boulot pendant que t'allaitais, après ton congé mat. Comment t'as géré l'allaitement?
Alors, moi, j'ai pas eu de congé mat parce que je suis pas salariée. Et au moment de ma grossesse, je montais ma boîte. donc non, j'ai même pas eu de coupure finalement. J'ai travaillé jusqu'au dernier moment et j'ai repris genre une semaine après. Et comme je travaille sur les réseaux sociaux, du coup, ben, j'ai toujours mon téléphone sur moi et j'ai pas vraiment coupé, j'ai dû couper un mois à tout casser, mais tu vois quand t'es sur Instagram, t'es sur Facebook et tout, t'as ton téléphone, c'est ton outil de travail. Donc j'ai pas vraiment coupé, mais le fait de travailler chez moi a facilité grandement aussi le fait d'allaiter si longtemps. Tu vois, c'est un truc aussi dont j'ai conscience. Je parle sur mon compte d'allaitement non écourté, mais j'idéalise pas le truc, tu vois. Je dis pas vas-y, fais-le, c'est facile. Non, je sais que t'as des femmes qui sont pas soutenues comme moi je peux être soutenue, qui doivent reprendre le travail. Alors oui, tu peux tirer ton lait machin, mais il faut pas se mentir non plus, c'est pas aisé pour toutes de tirer tant de lait, c'est pas aisé pour toutes de dire à leur nounou de le donner dans un contenant alternatif et de le donner et pas de donner dans un biberon. Je le sais tout ça, tu vois. Je fais partie des privilégiés qui ont la possibilité de travailler de chez elles et de maintenir cet allaitement sans être trop embêté par les contraintes de la vie, quoi. Donc la reprise s'est faite facilement.
Tu l'as mis à la crèche ou chez une nounou?
Ah non, ni l'un ni l'autre. Ben, tu vois pourquoi je suis privilégiée encore aussi? Mon copain est père au foyer. Du coup, je suis vachement aidée à ce niveau-là, tu vois. Donc bon, ça ne rend pas justice puisque il est avec moi là, mais sans ça non, il est avec nous tout le temps, quoi. Et puis comme je travaille aussi dans le milieu de l'enfance, de la maternité et tout ça, donc tu vois, alors les rendez-vous téléphoniques avec un petit qui fait... C'était mignon. Ça aurait été différent si je travaillais dans une autre branche. Mais là, ça passait.
Et alors, donc toi, t'es devenue spécialiste de l'allaitement sur ton compte Instagram Boobs.
Alors spécialiste, je dirais pas ça non plus. Enfin, tu vois, je mets en avant les réalités de la vie d'une maman qui allaite. Parce que quand moi, je me suis inscrite, quand j'ai commencé à regarder... je voyais pas vraiment je les voyais mais sur des comptes américains, tu vois, je voyais ce type de contenu mais sur des comptes américains où les mères se montraient vraiment telles qu'elles étaient et vraiment tu vois des fois t'arrives et puis t'as des taches de lait qu'on séchait parce que t'as pas eu le temps de te changer, donc tu remets ton débardeur, il y a des traces de lait dessus, c'est pas glamour mais c'est ça. Et les comptes en France, soit les nanas, elles allaitent 3 semaines et ensuite elles donnent des informations en disant « Aïe, ça fait mal, donc j'ai arrêté », ou soit c'est des comptes qui survolent le truc ou qui sont très... Alors c'est de la bonne info, hein, je dis pas, hein, mais qui sont pas scientifiques, mais très sérieux, tu vois. Et quand t'arrives et que tu connais pas et que tu vois des schémas, des machins et tout ça qui parlent d'allaitement et tout ça... tu t'identifies pas en fait. Donc moi je me positionne plutôt comme la bonne copine qui va parler d'allaitement, mais en essayant quand même d'avoir des sources et de rester sur du fait et pas en étant dans le tu sais, moi ça s'est passé comme ça, toi ça s'est passé comme ça. Non. Chacune a son expérience, mais moi je te parle de ce que je vis, et peut-être que toi tu vivras peut-être la même chose, en tout cas enfin tu vivras des trucs peut-être similaires. Si tu vis pas la même chose, ben c'est pas non plus un drame, ou c'est pas non plus un échec. On n'a pas les mêmes histoires. Donc je me positionne pas comme une spécialiste, parce que ce serait prétentieux de dire ça. Je suis plutôt la bonne copine qui va te parler d'allaitement et qui va essayer de te faire décomplexer et déculpabiliser sur certaines choses que tu vas pouvoir faire pendant cette période là quoi.
Et à quel moment tu l'as lancé, ce compte ?
En octobre 2018. Et quand je l'ai lancé, j'étais beaucoup plus hardcore dans mes propos. Ça m'a valu des petits désagréments sur la toile. Mais bon, voilà, on fait des erreurs. Écoute, hein, on fait des erreurs. Et j'étais beaucoup plus binaire, en fait, au tout début. Je voyais beaucoup de femmes qui disaient « Oh, arrêtez de culpabiliser les nanana », qui donnaient beaucoup de mythes sur l'allaitement qui pouvaient mener à des arrêts d'allaitement, tu vois. J'étais vraiment plus en mode justicière, genre, tu vois. J'ai lancé mon compte d'ailleurs en étant cachée, tu vois. Je le faisais de façon anonyme, parce que je disais des choses très cash, très dures, en sachant même, tu vois, consciemment, inconsciemment, que ça pouvait heurter. Mais je voulais heurter, tu vois. Et j'étais pas du tout dans l'empathie. J'étais pas du tout à me dire, elle a peut-être vécu ça comme ça, donc c'est peut-être pour ça qu'elle fait comme ci, machin. Je me posais pas du tout ces questions-là. Là, j'étais vraiment en mode exutoire, j'ai envie de vider mon sac. Et puis, au fil des mois, au fil des discussions, mon compte a évolué. C'est-à-dire que je ne vais jamais prôner le biberon, par exemple, ou le lait en poudre. Je vais jamais te dire go lait en poudre, go bib. Non, je prends vraiment plus en considération les histoires des mamans dans mes publications, en disant que chacune a son histoire, et que tu sais pas ce qui se passe dans la vie de la maman qui va donner un biberon, tu sais pas là ce qui se passe dans la vie de celle qui va donner du lait en poudre, mais tu donnes l'information. Parce que tu sais pas si cette maman qui donne du lait en poudre ou un biberon, demain elle passe sur ton compte et qu'elle va voir les informations, et que si demain elle a un autre enfant, elle se dira, j'ai eu cette information-là, tac, ça fait du chemin dans sa tête, tu vois. Que si t'arrives sur un compte et qu'on te fustige, t'es une mauvaise mère parce que t'as pas donné le sein, forcément tu vas être braquée, tu vois. L'information passe pas si on est dans l'invective, ça ne passe jamais. Mais moi il a fallu que j'ai un cheminement, tu vois. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris quand j'ai lancé, donc c'était en octobre 2018. J'ai pris ce revers entre guillemets genre en février mars. Même si en termes de temps, ça n'a pas l'air d'être beaucoup, tu vois. Mais avant d'ouvrir mon Instagram, j'étais quand même déjà sur des groupes et tout, un peu plus fermés, et qui sont binaires, en fait. Hein. C'est si t'allaites, c'est bien. Si t'allaites pas, c'est pas bien. Et j'étais sur ces groupes-là. Et le fait d'avoir créé Boobs au tout début, le fait d'avoir le soutien de ces mamans-là, moi, ça me galvanisait. Je me dis, ah ouais, je dis tout haut ce que les mamans, elles se disent tout bas dans les groupes fermés, elles échangent, nanana. Ben moi, je le dis devant tout le monde, tu vois. Et ça me galvanisait. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que non, c'est pas la bonne façon de faire si tu veux promouvoir quelque chose. C'est pas en étant violent, c'est pas en étant jugeant que tu fais intégrer une information et que tu fais changer les choses, tu vois. Donc, mon compte a évolué. Et justement, tu vois, beaucoup de ces femmes qui étaient sur ces groupes où j'étais, tu vois, maintenant détestent mon compte, parce que pour elles, j'ai retourné ma veste, ou j'en sais rien, ou je ne défends plus l'allaitement comme elles voudraient que l'allaitement soit défendu, tu vois. Ben non, ça s'appelle l'évolution. Ça s'appelle prendre du recul et te dire qu'on fait toutes des erreurs, et que il n'y a aucune maternité qui est parfaite. Il y a aucun parent qui est parfait. On fait comme on peut avec les infos que l'on a. Tu vois, quand je te parlais de mon accouchement qui s'est pas bien passé, quand je te parlais de la suite où j'ai fait tout au feeling petit, bah j'aurais pu, si j'aurais partagé ces certaines infos sur des réseaux ou quoi, me faire bâcher, genre mais quoi, t'as fait ça, mais c'est pas possible, moi j'ai fait comme ci, moi j'ai fait comme ça. Ouais, ben non, moi je l'ai fait avec les infos que j'avais au moment T, mon enfant n'est pas mort. je ne le mets pas en danger de mort, je fais avec ce que je peux, tu vois. Donc aujourd'hui, comme je te dis, je vais pas défendre le biberon ou le lait en poudre. Enfin, le lait en poudre donné dans le biberon, parce que le lait maternel donné dans le biberon, c'est une autre histoire. Mais le lait en poudre donné dans un biberon, je vais pas le défendre. Je vais pas le défendre, mais je vais pas jeter non plus une pierre à cette maman, parce que je sais pas si derrière, ben, elle a pas la pression de son mari qui lui dit ah ouais non mais c'est mort, tu donnes pas le biberon, tu donnes pas le sein, je veux pas que tes seins soient comme ça, moi je veux te voir comme si, je veux que tu sois sexy, je veux que tu sois machin, tes seins vont arriver comme ça. La belle-mère qui va parler de son expérience d'allaitement, la copine qui va parler de son expérience, qui va te dire ah ouais moi j'ai eu des crevasses, ça fait mal, ça fait ci, ça fait ça. Tu ne sais rien du tout, tu vois. Donc moi je vais parler, je vais donner des exemples, je vais donner des faits sur tout ça, et je pense que c'est pour ça aussi que je me fais moins bâcher que ce que je me suis fait bâcher les temps d'avant, parce que ou même que certains comptes se font bâcher parce qu'ils donnent pas de faits, tu vois, ils donnent pas de sources, ils sont pas factuels, ils sont dans l'expérience personnelle. Et quand tu donnes une expérience, quand tu images un propos avec ta propre expérience, bah déjà ça casse tu perds en crédibilité. Et tu peux pas généraliser ton expérience avec toutes les histoires de toutes les mamans en fait qui vont suivre ton compte. Donc c'est pour ça que j'ai longtemps je me suis longtemps pas montrée, parce que je ne voulais pas qu'on soit entre guillemets centré sur l'INSEE, enfin moi quoi, tu vois, mais plus sur mes écrits et les faits que j'avance. Aujourd'hui, je me montre, mais encore une fois, c'est pas pour montrer mes fesses en faisant du twerk sur TikTok, tu vois. C'est, je me montre, mais il y a un message derrière, tu vois. Et comme j'avais dit dans une vidéo, je m'en fous que tu me trouves jolie ou quoi. C'est pas ça le propos. Moi, j'ai envie que t'aies l'information et que ça te marque, tu vois. Je veux que voilà qu'il y ait un impact à ce niveau-là et que ça se fasse réfléchir. Et toutes mes publications vont dans ce sens-là. Enfin, la majorité, parce que t'as des posts, des petits mèmes humoristiques, mais ça reprend une situation de la vie d'une maman qui allaite, tu vois. Et je pense que c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pris du recul par rapport à ça, et que je suis vraiment plus apaisée et vraiment plus sereine par rapport à ce que je vais avancer. Je réfléchis plus aux mots, je pèse plus les mots. Les mots sortent comme ça, tu vois. Je pèse plus, je me dis plus, est-ce que je vais vexer, est-ce que, non, parce que ce sont des faits, ce que je vais te dire. Tu vois, il y a certaines publications que je vais faire. Par exemple, j'ai fait récemment une publication, sur le lait en poudre versus le lait maternel. Et j'ai montré, en fait, j'ai repris un tableau, je l'ai remis à ma sauce. Mais, enfin, ma sauce, graphiquement. Ce qu'il y a dans le lait maternel et ce qu'il y a dans le lait en poudre. Il y a plein de trucs qui manquent dans le lait en poudre. Mais c'est factuel, tu vois. Et je ne m'offusque pas quand une maman arrive en commentaire en me disant « Ouais, mais quand même, hein, ça fait culpabiliser les mamans qui n'ont pas pu allaiter. » Bah non, en fait, c'est toi qui culpabilises, parce que c'est toi, à l'intérieur de toi, qui est en peine de ne pas avoir mené à bien ton projet d'allaitement. C'est plus, tu sais, quand je vois des commentaires comme ça, à l'époque, ça m'aurait saoulé. Et c'est une vidéo que je remets à chaque fois quand je crois que j'ai fait une vidéo sur la culpabilité. Mais c'est cette maman, ce qu'elle exprime à travers ce arrêter de culpabiliser les mamans, c'est arrêter. Moi, j'ai pas pu allaiter parce que on m'a pas soutenue, parce que j'ai pas eu l'information, parce que, mais pas parce que ce que je vois là, c'est vrai, tu vois. C'est parce que ça me ramène à une période douloureuse qu'est le fait d'avoir manqué ou de ne pas avoir allaité parce que j'ai pas été accompagnée. Et tu verras, mais vraiment, tu regardes, enfin, si tu peux faire un petit tour sur les forums et trucs comme ça, et quand après tu lui dis, mais tu voulais allaiter, ouais, mais j'ai pas pu, ouais, mais je regrette, ouais, j'aurais voulu, mais, tu vois, elles vont jamais te dire, enfin, dans la grande majorité, elles vont pas te dire, j'ai pas allaité parce que ça me dégoûte, ou j'ai pas allaité parce que machin, c'est souvent un regret, en fait, qui est transcrit dans juste cette petite phrase, arrêtez de nous culpabiliser. Et à chaque fois. Et ce constat, je l'ai fait, bah voilà, depuis ces deux dernières années, je l'ai fait. Et au début, je pouvais te répondre un pavé en te disant, ouais, non, mais bon, faut que tu sois en accord avec ton choix. Si t'as fait ce choix-là, nanana. Non. Il n'y a pas de choix parce que, t'es conditionné à faire telle ou telle chose. Moi, je ne crois pas au libre arbitre, en fait. Je ne crois pas au fait que tu sois un mammifère et que tu ne veuilles pas nourrir ton enfant. Tu vois ce que je veux dire? On nous a toujours conditionnés à ce biberon, ce lait en poudre. Toujours, 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 toujours. On nous a conditionnés à ce corps sexualisé. On nous a conditionnés à ce que les seins soient sexualisés, en fait. Donc, tu te construis avec cette image-là. Et je ne crois absolument pas qu'une femme, si tu lui donnes pas le choix, hein, j'entends, si tu lui donnes pas le choix du biberon et du lait en poudre, te dira, ah non, moi je donne, voilà, j'ai mes seins, mais je veux pas lui donner le sein. Bah tu lui donnes quoi alors? Tu vois, si t'avais pas le choix, tu lui donnerais quoi? Et aujourd'hui, on est dans une société où, déjà d'une, on valorise pas l'allaitement, et on sexualise à mort le corps de la femme. Donc, quand tu peux avoir le choix et que t'es toi-même conditionné et que derrière, tu vois, t'évolues dans un milieu où les gens te font pas te remettre en question, ben forcément, tu vois, ça mène à des femmes qui regrettent de ne pas avoir allaité, qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas soutenues. Moi, je fais partie de ces femmes-là. J'ai un copain qui m'a aidé à prendre ce recul. Moi, si mon copain m'avait dit, ah ouais, non, tes seins, non, je veux pas, c'est con, hein. Mais comme mes seins, c'était pour moi à l'époque un atout, je pensais que c'était un atout, ben, s'il m'avait dit que me voir allaiter ou que savoir que mon corps aurait pu changer parce que la grossesse, parce que machin, ça l'aurait dégoûté, je pense que je n'aurais pas allaité. Parce qu'en plus c'était pas quelque chose genre je me serais pas battue pour ça quoi, genre c'était pas un rêve pour moi d'allaiter quoi, tu vois. Donc il aurait suffi d'un twist pour que j'allaite pas. Et t'as plein de femmes comme ça. T'as plein de femmes comme ça. Et si tu prends pas en considération ça, tu pars vite dans le jugement et dans la binarité de tes propos quoi. C'est ouais ben non mais c'est bon maintenant avec internet tu peux avoir des informations non mais si tu le fais pas c'est que tu le voulais pas et puis t'as le choix, non t'as pas le choix, enfin t'as pas un vrai choix quoi, tu vois, parce que même des femmes qui sont archi convaincues de vouloir allaiter, tu vois, et genre ouais je veux partir d'un truc, t'as des femmes qui m'écrivent comme ça, tu vois, c'est oui mais je tiens à mon allaitement mais j'ai mon mari qui derrière me dit ça, le médecin, tu vois, genre par exemple, t'as des femmes qui arrêtent d'allaiter aussi parce que leurs enfants ont des caries, tu vois, ou arrivé à un moment elles arrêtent parce qu'elles ont ils ont des caries parce que le dentiste a dit c'est l'allaitement qui, le médecin qui dit c'est l'allaitement qui mettent tous les mots en fait sur l'allaitement. Il suffit que tu sois pas informé et encore une fois que tu sois pas soutenu pour que tu perdes le truc quoi. Quand ça en vient à ta maternité, c'est ton ego aussi de mère qui en prend un coup et ça c'est extrêmement dur, tu vois. Et tout le monde n'a pas la même force de caractère. Donc c'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, comme je te dis, je ne réfléchis plus aux mots que je vais dire en me disant je vais vexer, je vais pas vexer, machin, nan, nan. Non, ce que je vais te dire, ce que je vais avancer, c'est factuel. C'est factuel. Les publications que je fais et les personnes qui me suivent depuis un moment savent que c'est pas quelque chose de jugeant.
T'as changé ta façon de t'exprimer aussi
Ah, mais complètement. Bah, complètement. À partir du moment où tu prends conscience que chaque femme a une histoire et chaque femme évolue dans un environnement différent, juste ça, tu peux pas juger, en fait. Et tu te dis aussi que toutes les femmes font face, en tout cas, enfin, en France, on fait face à un manque d'accompagnement, mais un vrai manque d'accompagnement, en fait, en termes d'allaitement, quoi.
Et tu parlais justement du corps sexualisé des femmes. Est-ce que toi, tu as eu du mal à allaiter en extérieur, en public? Comment ça s'est passé de ce point de vue-là pour toi?
J'ai eu du mal les deux premiers mois, presque 3 mois, où je rentrais chez moi, en fait, pour allaiter. Je me rappelle d'une fois, la première fois, pareil, je suis sortie, enfin, la première sortie que j'ai faite avec mon fils, c'était, il avait 3 semaines, 1 mois. Et j'allais boire un verre avec des amis. Et je suis arrivée la première. Et la deuxième personne qui est arrivée, c'était une copine. Et cette copine me dit oh là là, moi je pourrais pas. Enfin, moi j'avais commencé à allaiter ma fille et tout, mais après ça m'a dégoûté parce que bon, c'était sexe. Enfin, tu vois, genre elle assimilait le sein au sexe, en fait, tu vois. Et ça pareil, tu vois, c'est des petites phrases qui te restent comme ça. Et dans le groupe d'amis, il y avait des garçons, tu vois. Il y avait 2 ou 3 garçons. Et j'ai tout de suite, enfin, vu que j'avais cette image sexuelle des seins, dès que mon fils a commencé à pleurer un petit peu, alors il était en écharpe, je suis allée dans le couloir. C'est moi qui suis sortie de table pour aller dans le couloir et lui donner la tétée. Et comme il se calmait pas et que j'étais pas encore à l'aise avec la tétée debout, tu vois, parce que pareil, hein, tu sais, je me suis pas mise dans un endroit confortable et tout, machin. Non, je me suis mise debout, tu vois, au milieu du passage, machin. J'ai fait, bon, bah, désolé, je rentre chez moi, je peux pas, tu vois. Et je suis rentrée chez moi. Alors, j'étais à 10 minutes de chez moi, tu vois. Même pas à 5 minutes. Et je suis rentrée rapidement chez moi. Et c'était comme ça à chaque fois. À chaque fois, il fallait pas que je parte trop loin de chez moi, parce que si mon fils avait besoin de manger ou de téter, je devais être proche de chez moi. Et puis après, on est arrivé mois de juillet et tout. Il allait avoir 3 mois. J'ai pris une photo carrément, tu vois, genre le premier jour où j'ai sorti le sein en extérieur. J'ai dit à mon mec, il faut marquer le coup. Et j'ai sorti. Et c'est bête, hein, l'image, mais tout était genre, il y avait personne autour de moi, tu vois. Enfin, il y avait du monde, mais pour moi, il y avait personne. Pour moi, c'était juste mon fils à qui je donnais le sein. Et à partir de ce jour-là, ça a été un réel déclic. Et j'ai donné le sein dans un lieu public sans me soucier de Jean-Paul ou Raymond qui passent à côté et qui seraient offusqués. Mais rien à faire, quoi.
T'as déjà eu des remarques, du coup, vu que tu l'allaites depuis 3 ans et demi?
J'ai juste eu une seule remarque, que c'était il y a 2 ans. Autant avec le Covid, tout ça, moi je sais plus quand est-ce qu'on est sorti. non, c'était...
Janice.
C'était il y a 2 ans, donc il avait 3 ans. Enfin, il venait d'avoir 3 ans. Et on était à la piscine. Et un groupe de 3 vieilles mamies là, moi j'étais là, j'ai sorti mon boob, tu sais, genre j'ai pas de maillot de bain spécial ou quoi que ce soit, hein, j'ai sorti mon sein comme ça. Il est venu téter et tout, et j'entendais les petits
ah oh, bah là dis donc, franchement il est grand quand même, hein, pour téter, oh là là, franchement, non.
Et c'est la seule truc, et ça m'a plus fait rire que tu sais, je serais pas arrivée en trombe, qu'est-ce que vous avez, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Non, j'étais laissée et je me suis dit, ben, encore une fois, tu vois, c'est comme le jugement des femmes qui vont dire arrêtez de nous culpabiliser, c'est les vieilles mamies qui ont fait un commentaire à ce niveau-là, c'est plus par rapport à leur conditionnement à elles, tu vois. C'était pas, enfin, tu vois, elles savent pas forcément qu'un enfant est sevré entre 2 ans et demi et 7 ans, que c'est tout à fait normal d'allaiter un enfant à cet âge-là, qu'il y a rien d'indécent, qu'il y a rien de sexuel dedans, voilà, elles font partie de cette génération-là où voilà, le sein c'est pour vendre une voiture quoi. Donc je leur en voulais pas. Moi j'ai continué mon petit truc et en règle générale non, on m'a jamais importuné par rapport à ça, on m'a jamais fait de réflexion. La seule réflexion qu'on m'a faite c'est quand je portais mon fils. Une femme est venue de nulle part, qui est venue face à moi. Oh, faites attention à pas l'étouffer. Écoute, jusqu'à présent, je n'ai pas pour projet de tuer mon enfant. mais voilà, c'est juste ces deux épisodes-là où j'ai eu une réflexion ou quoi. Mais sans ça, après peut-être que j'affiche une confiance en moi qui fait qu'on ne vient pas me saouler ou j'en sais rien. Mais j'ai pas eu de non.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, tout ce projet sur l'allaitement, toutes ces vidéos que tu fais c'est quoi la finalité pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Tu dis banalisons l'allaitement.
Ben, la finalité, c'est de... Au départ, c'était... comme je te dis, au départ, c'est plus un exutoire. Puis après, c'est devenu un espace où je peux rencontrer des femmes qui sont dans la même... qui vivent la même chose que moi. Et qui se disent, peut-être, j'ai souvent des commentaires, ah, je suis pas seule à vivre ça. Et c'est vraiment un truc, tu vois, t'as l'impression que c'est clair, enfin, hein, t'as l'impression que tu vis, enfin, tu vis les trucs, il y a des milliards de mamans sur Terre, mais tu penses que t'es toute seule à vivre, la nuit de la Java, par exemple, ou que tu puisses vivre des fois d'être saoulée d'allaiter, ou que tu puisses vivre les montées de lait, les machins, alors que non, tu vois. Et on en revient au fait que sur beaucoup de comptes Instagram ou beaucoup de blogs ou de machins, soit on te donne une vision négative de l'allaitement en disant j'ai arrêté parce que j'ai des crevasses, parce que ça m'a fait mal, soit on te donne une vision idéalisée en te montrant une maman qui est en train d'allaiter dans la forêt, tu vois. Mais la vérité, c'est pas ça. Et au début, ben c'était plus pour montrer une réalité. Et je me suis du coup ça fait 2 ans maintenant, le compte grossit et je me rends compte que ben il y a encore beaucoup de boulot. Et je sais que, tu vois, je suis encore un tout petit compte finalement, tu vois, j'ai pas non plus des millions d'abonnés pour rivaliser avec par exemple des comptes de nanas de télé-réalité qui vont parler de leur allaitement qui a duré 3 semaines mais qui auront beaucoup plus d'impact malheureusement sur des futures mamans, tu vois. Moi, à ma petite échelle, j'essaye de, avec l'humour, que les messages passent et que tu vois, t'as des mamans avec de l'humour, elles vont se dire je me rappelle que je l'ai vue en train de danser sur ça, en train de passer sur ça, tu vois. C'est bête, hein, mais le message va s'intégrer beaucoup plus. Quand par exemple je parle de l'alcool, tu vois, pareil, ça, j'ai attendu 9 mois pour reboire, et encore j'ai trempé mes lèvres dans une coupe de champagne à Noël alors que je me bute l'été avec un Monaco pêche, donc tu peux t'imaginer comme les mois de juillet août la première année, ça a été la tristesse. Mais voilà, quand j'ai abordé ça, tu vois qu'il y a encore du taf parce que t'as beaucoup de mamans qui disent ah non mais c'est bon, je peux tenir encore sans. Mais on te dit pas que t'es obligé de boire. Je suis pas en train de dire avec l'alcool la fête est plus folle. Je te dis juste que si tu veux boire un verre ou deux, pas te mettre une mine, tu peux. Après t'en fais ce que tu veux, tu vois. Et il y a plein d'idées reçues. Quand j'ai posté une autre vidéo sur l'allaitement, pourquoi une femme allaite, et que j'ironisais sur le fait de dire que c'était pour exciter, je vais pas te mentir, t'as des personnes qui, dans les commentaires, disaient « Non mais bon, tu peux quand même allaiter chez toi, t'es pas obligé de tout déballer, t'es pas obligé de tout montrer, t'as des vieux pervers aussi qui commentent en disant « Ah, c'est, j'aimerais bien être à la place du bébé ». Mais pardon, quand t'as ce genre de commentaires, tu te dis qu'il y a encore mais du boulot mais pour encore des décennies. Vraiment, pour avoir, tu vois, pour que l'image de l'allaitement et du sein change en étant quelque chose de nourricier et pas en étant... Enfin, je veux dire, il y a une différence entre une meuf qui streamousse en mode « Ouais, vas-y, je te montre mes nichons, juste pour montrer tes nichons. » Elle peut montrer si elle en a envie, hein, je dis pas. Hein. Mais quand tu as un bébé qui a un sein dans la bouche, à quel moment dans ta vie, dans ta tête, tu te dis, c'est bandant, quoi. Il y a vraiment, là, pour le coup, alors je veux bien être, tu vois, dans la bienveillance et dans le non-jugement pour les... Mais là, il y a un moment, je me dis, non, mais il y a eu un trauma. Il y a eu un trauma, je ne sais pas. Et quand tu vois que sur des sites pornographiques, il y a quand même des sections pour ça aussi, tu te dis qu'il y a un boulot de fou. Et du coup, c'est pour ça que je pars sur banalisons l'allaitement et je suis pas dans normalisons l'allaitement parce que pour moi l'allaitement c'est normal, c'est la continuité de la maternité. Je le banalise parce que il faut que dans l'espace public, la femme qui allaite ne soit pas fustigée parce qu'elle donne à manger ou parce qu'elle réconforte son enfant, tu vois. Au même titre qu'une maman qui donne un biberon, elle donne à manger. Au même titre qu'un mec qui mange à côté son sandwich jambon beurre, il mange son sandwich jambon beurre, et tu vois pas le truc en disant « Arrête, ta bouche, elle m'excite quand tu mets ton sandwich dedans. À quelle heure ?» Tu vois ce que je veux dire? C'est con, hein, mais c'est... Il y a vraiment, vraiment, vraiment du boulot à faire dessus, quoi. Et... au départ, c'était un truc... c'était... C'est un exutoire pour moi. Et là, c'est devenu plus, quand je reçois des messages de certaines mamans qui me disent, j'ai vu tes vidéos et franchement, ça me conforte, ça me donne envie de continuer, ça me motive et tout ça. Ou quand tu vois même des femmes qui n'ont même pas d'enfants, qui te disent, je suis ton compte et tout et ça me fait marrer et ça, j'apprends des trucs et tout ça. Franchement, là, oui, ça galvanise en fait. Et tu te dis que tu vas toucher une petite partie. Tu vas toucher une petite partie. Mais cette petite partie-là, c'est peut-être des futures mamans qui vont avoir cette information et qui, ensuite, ça va faire du chemin chez elles, quoi. Tu vois, elles vont pas partir en mode page blanche en disant, je savais pas. Elles verront que, il y a une réalité autour de l'allaitement qui est pas toujours non plus en mode idéal, machin. Mais que c'est surmontable si t'es accompagnée et si t'as les bonnes infos, quoi.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Je pense que je suis beaucoup plus sûre de moi. Et ça, c'est sûre de moi aussi par rapport à mon corps. Tu vois, ça fait un an et demi que je suis en no-bra. Alors, je fais un 90D, tu vois. Mais voilà, c'est un 92, c'est pas... Mais à l'époque, ça aurait été impossible pour moi de sortir sans soutien-gorge. Impossible. Parce que j'étais en mode, oh, est-ce qu'ils vont voir que ça ballotte? Est-ce qu'ils vont voir la forme de mon téton? J'aurais été... C'est impossible. Et aujourd'hui, je m'en fiche. Je m'en fiche complet. Je vis pour moi, en fait. Enfin, Je vis pas pour le regard de l'autre en fait en pensant est-ce qu'il va me trouver bien, est-ce que je serai assez jolie, est-ce que je serai machin. Je m'en fous. Et c'est aussi pour ça que tu vois 2 ans après, aujourd'hui j'ose me montrer. Et je me montre pas forcément en mode de façon flatteuse en me disant attends, est-ce que je prends le bon angle, est-ce que je prends le bon... J'ai la tête que j'ai. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pas grave. Moi, je passe mon message et c'est à ce niveau-là, tu vois. Vraiment, et la maternité aussi m'a fait me poser des questions sur lesquelles je me serais jamais penchée si j'avais pas eu mon enfant. J'ai toujours eu cette. J'ai toujours été curieuse, je pense, et prête à me remettre en question, mais il y a des questions. Sur lesquelles je me serais pas forcément penchée, tu vois. Notamment, tu sais, en termes d'éducation ou des choses comme ça, je me serais pas intéressée à ça et même le jugement aussi et le libre arbitre surtout. le conditionnement, ça c'est des questions sur lesquelles je me suis penchée avec Boobs, vraiment avec Boobs. La maternité, elle est ce qu'elle est. Je pense que c'est Boobs qui m'a changé, m'a permis d'évoluer, tu vois, sur une façon de voir les choses, de voir le monde. Le conditionnement, par exemple, en fait partie. Le libre arbitre en fait partie. Quand tu prends conscience de ça, ça change beaucoup de choses, en fait, dans ta vision de voir la vie, en vrai.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman nîmoise ?
C'est une maman qui vient de la région parisienne et qui... et qui, par amour, est venue rejoindre son copain de Nîmes, qui s'est dit qu'elle repartirait sur Paris au bout de 6 mois et qui, finalement, est là depuis 10 ans, a acheté un appartement et a eu un enfant. Je suis ici, je me sens bien, en fait. Je me sens bien et je... J'ai pas un réseau d'amis étendu et tout machin et c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi à rentrer en lien avec des personnes qui pas forcément pensaient comme moi, c'est pas ce que je recherche non plus, hein, mais qui vivent des expériences similaires et avec lesquelles tu peux t'identifier et avec lesquelles tu peux échanger. Ça m'a apporté des expériences à penser que j'aurais peut-être pas eu si j'étais restée chez moi, je sais pas. Après, on peut pas refaire l'histoire, mais c'est ce que ça m'a apporté.
Quel est ton endroit Kids Friendly préféré à Nîmes ?
Le parc le Jardin de la Fontaine. En fait, c'est un grand parc avec des canards, des cygnes, des poissons sur des bases de termes romains. Mon fils adore aller là-bas pour courir après les pigeons et courir sur les pentes qui montent jusqu'à la tour Magne et redescendre en cavalant. Il adore ça. Et puis c'est un petit moment à nous. On prend des petits croutons de pain qu'on donne aux pigeons. Il est tout content. Donc ouais, dans le jardin de la Fontaine, c'est pas mal.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Les projets rien que pour moi, c'est de développer un peu plus Boobs et de la partie shop aussi, parce que j'ai le shop Boobs où je vends des suites avec des messages d'allaitement et tout ça, mais qui ne sont pas avec des ouvertures. Donc c'est toute une contradiction qui peut perturber certaines mamans que j'ai déjà expliqué, mais je veux montrer que tu peux t'habiller comme tu as envie, banaliser l'allaitement avec des messages et utiliser des techniques qui font que tu te ruineras pas non plus dans certains suites ou certains t-shirts d'allaitement. Donc je voudrais plus passer ces messages là et développer plus le shop. Et puis ensuite j'ai d'autres projets, mais bon, je vais pas trop les développer là parce que c'est des petites surprises par-ci par-là. Et puis après, à titre perso, quand on sera plus en Covid, je veux aller me faire un spa et me faire masser parce que ça fait 3 ans que j'ai pas pris ce temps pour moi. C'est tout bête, c'est un tout petit truc, mais. Mais vraiment, je me suis pas pris un temps, tu déposes ton cerveau, tu te fais masser et tout ça. J'aurais pu en plus, hein, tu vois, j'aurais pu. J'avais des occasions, mais à chaque fois, tu vois, les trucs qui sont remis à demain ou je fais machin. Voilà, si je peux, je me fais ça.
Et en famille ?
En famille, c'est de plus, là, on voudrait aller un petit peu à la montagne ou quoi. Et puis, on voulait aussi aller à l'étranger, mais bon, voilà. mais être plus, plus voyager.
Merci beaucoup, Lindsay.
Je t'en prie, Shane.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Lindsay, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 75 sur Instagram. et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie